Bonjour à tous et bienvenue dans Active Info. Nous vous proposons une nouvelle formule en cette rentrée. Nous allons passer une demi-heure ensemble pour parler de l'actualité du territoire avec des invités par téléphone. Au programme donc la nouvelle saison culturelle à Amboise, la semaine de la mobilité et les baptêmes d'autostop organisés par la Tève et les soirées culturelles à l'auberge de la Treille à Saint-Martin-le-Beau. Et pour terminer, la chronique de Léo, notre volontaire en service civique sur la série Serpent Queen à ne pas manquer. On commence donc avec le lancement de la nouvelle saison culturelle à Amboise qui sera présentée le dimanche 2 octobre aux Amboisiens au Théâtre Beaumarchais. Avec la complicité de la compagnie La Fabrique à Théâtre, ce sera ensuite suivi d'un spectacle à 17h et tout cela sous le signe du 400e anniversaire de la naissance de Molière. On en parle avec Karine Dastin, directrice du service culturel à la mairie d'Amboise. Bonjour.
Bonjour.
Alors cette année, l'ouverture de la saison culturelle se fait sous le signe du 400e anniversaire de la naissance de Molière, avec trois temps spécifiques avant la soirée de présentation.
C'est ça, c'était un temps fort que la ville avait envie de célébrer, et du coup de différentes manières. Donc on commence un peu ce week-end de festivités qui correspond à l'ouverture de saison dès le jeudi soir, le 29 septembre, avec un grand rendez-vous sous la forme d'une rencontre-conférence et un invité qui s'appelle Georges Forestier, qui est biographe de l'auteur, qui est un grand spécialiste qu'on voit parfois à la télévision, qui se déplace pour de nombreux rendez-vous et conférences de prestige. Et donc c'est une vraie chance d'avoir Georges Forestier avec nous au théâtre le jeudi soir. Ce sera un rendez-vous proposé en accès libre, donc pour tout le monde, et l'occasion de parler de Molière et de parler des grands thèmes qui traversent son œuvre et puis aussi de l'homme qui se cache derrière les textes.
Et je crois qu'il y aura aussi le samedi 1er octobre une projection à la médiathèque Aimé Césaire.
C'est ça. Ensuite, le samedi, on se déplace à la médiathèque, dans l'auditorium plus précisément, avec la projection du film Le roman de Monsieur Molière, qui est un film de Ronan Rivière. Et puis là aussi, l'occasion d'une autre manière de découvrir la troupe de Molière et ses aventures, et de découvrir le parcours de l'illustre théâtre, qui était le théâtre que Molière a monté. Et fait évoluer. Et puis donc, le rendez-vous suivant, c'est le dimanche, avec cette fois-ci une pièce de théâtre. Donc on aura une conférence, un film, et on finira le dimanche après-midi avec une pièce proposée par La Fabrique à Théâtre qui s'appelle Florilège Molière. Donc c'est pas une pièce connue de Molière qu'on va suivre de A à Z, c'est l'occasion de se plonger et de traverser le répertoire de Molière et de revoir quelques scènes cultes et des personnages aussi qu'on connaît très bien.
Comment est-ce que vous construisez chaque année la programmation? Est-ce que vous essayez de proposer donc du théâtre, de la musique et de faire en sorte aussi qu'il y en ait pour tous les goûts?
Ben c'est ça, vous avez répondu en fait. Hein. Dans les grandes lignes, c'est ça. L'idée, c'est que on soit sur une saison pluridisciplinaire qui est proposée, qui s'adresse à tout le monde. Il y a aussi des spectacles qui sont plutôt choisis en direction des familles et du jeune public. Il y a des écritures un peu plus contemporaines. Il y a des grands rendez-vous. Peut-être on va en reparler, mais il y a des rendez-vous un peu tête d'affiche, comme on dit, des temps forts autour de la musique, du théâtre, de l'humour. Donc tout ça est un jeu d'équilibre dans les propositions pour s'adresser à tout le monde avec des rendez-vous que l'on espère attractifs et de qualité.
Alors justement, on peut lire dans la plaquette de présentation de la saison la mention incontournable qui concerne par exemple le spectacle Le Porteur d'Histoire. C'est du théâtre, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a estampillé un petit peu trois rendez-vous incontournables parce que, d'ailleurs, on le sent déjà dès maintenant dans les réservations, ce sont les spectacles sur lesquels il va y avoir beaucoup de monde et le plein, on l'espère, parce que ce sont des spectacles particulièrement attractifs. Le Porteur d'Histoire, parce que c'est une pièce d'Alexis Michalik qui est l'auteur, metteur en scène, acteur, tendance un peu du moment. moment, qui rafle régulièrement des Molières, qui cartonne à Paris en ce moment avec la pièce un peu plus musicale qui s'appelle Les Producteurs. Il a beaucoup de pièces qui sont jouées dans des théâtres parisiens et l'occasion d'accueillir une pièce à Amboise, ben voilà, c'est de permettre au public local de découvrir cette création-là dont on entend parler et avec une troupe, etc., qu'on a envie de découvrir près de chez soi. Et le porteur d'histoire, bah, après, ça repose vraiment sur le jeu de brillants comédiens. Il y a une grande distribution d'ailleurs parce que c'est en alternance. Et finalement, peu de choses, peu de décors, mais une histoire comme un tourbillon qui nous emmène, une histoire à tiroir où on va d'aventure en aventure, de personnages, on traverse plusieurs périodes de l'histoire. C'est un beau clin d'œil au théâtre, à la littérature. On retrouve des personnages célèbres, c'est totalement emballant et voilà, et c'est pour tout le monde là aussi, c'est du théâtre qu'on apprécie.
Est-ce qu'on peut redonner la date?
Alors le porteur d'histoire, ce sera le vendredi 24 mars.
Voilà. À 20h30.
Beaumarchais, à 20h30. Et dans les autres rendez-vous, si je remonte un petit peu dans le temps pour parler des incontournables, il y a Thomas VDB.
Voilà, c'était ma question.
Voilà, qui va s'arrêter chez nous tout début février avec son spectacle qui s'appelle Thomas VDB s'acclimate.
Oui.
Qui porte bien son nom, hein, puisque il questionne le sujet du changement climatique, mais voilà, de manière enfin à sa manière, de manière décalée, de manière un peu provocante aussi parfois, mais avec beaucoup d'humour et beaucoup de générosité, et ce sera un grand rendez-vous de la saison.
Un autre moment incontournable, je crois, c'est le concert Vivaldi L'âge d'or.
Oui, un petit peu plus tôt, du coup dans un autre registre, hein, qui est celui de la musique classique. La ville avait envie de proposer ce rendez-vous, ce grand rendez-vous de musique, un superbe concert avec un ensemble à cordes, l'ensemble de Marianne Piketty, qui s'appelle le Concert Idéal, et une traversée du répertoire de Vivaldi et de quelques autres compositeurs de cette époque, de manière très enjouée et très originale, parce que les musiciens pendant le concert sont tout le temps en mouvement. Donc c'est un spectacle, c'est un concert chorégraphié finalement, avec un travail aussi très soigné sur la lumière et l'impression de tableau qui évolue au fur et à mesure du concert. Donc ce sera un grand rendez-vous et c'est un rendez-vous qui est en partenariat avec l'association Quintessence, qui a proposé là début septembre un festival de musique classique sur le territoire. Et donc on est associé, c'est un co-accueil pour ce rendez-vous effectivement qui nous semble aussi incontournable pour les gens qui veulent vivre de grands moments. Mais j'espère qu'il y aura aussi beaucoup de curieux pour pour découvrir d'autres artistes voilà.
Alors oui, je pensais par exemple à Ours, le fils d'Alain Souchon,
oui.
Je crois qu'il viendra aussi.
Oui, alors Ours, on l'a pas mis dans les incontournables, mais on aurait pu. On aurait pu vraiment sur cette fin de saison. Donc là, ce sera le vendredi 18 novembre. Ours est un des fils d'Alain Souchon, Charles Souchon, mais il a sa propre carrière.
Oui.
Voilà. Et donc il y a un album là qui est sorti, qui s'appelle La cinquième saison. Non, ça c'est un des tubes, pardon, mais l'album s'appelle Mythe. Souko, et voilà, c'est de la chanson pop bien écrite, et je pense que là aussi on peut compter sur un bon moment et la générosité de l'artiste. Je pense que ce sera un concert attendu, voilà, au début de, un peu avant l'hiver, là, quand on a envie de venir se réchauffer au théâtre, ce sera le bon moment.
Alors il y a de la danse aussi, hein, il y a plusieurs, deux ou trois spectacles de danse qui sont proposés cette année.
Oui, il y a de la danse et c'est important parce que c'est une discipline qui aussi a besoin de visibilité, la danse contemporaine. Et donc, on va accueillir deux spectacles de danse. Un premier spectacle qui s'appelle Sphère, avec un artiste, Jimmy Duciel, qui est installé en région. On est plutôt dans un univers de danse urbaine, très étonnant, d'énergie et de propos comme ça forts. Donc ça, ce sera au mois de mars. Et j'ajoute aussi qu'on va faire tout un travail de médiation culturelle. On le fait régulièrement, hein, autour des spectacles. Mais Sphère, ce sera l'occasion de travailler vraiment avec les collégiens et les lycéens autour de cette discipline et puis de proposer des ateliers. C'est en cours de finalisation avec les établissements scolaires. Et puis il y aura un autre grand rendez-vous de danse, pardon, à la fin de la saison au mois de juin, avec une pièce qui s'appelle Arise et qu'on co-accueille là aussi dans le cadre d'un partenariat avec le Centre chorégraphique national de Tours, puisque on sera au mois de juin, ce sera le moment du festival Tours d'Horizon, le festival annuel. Et cette date décentralisée chez nous en partenariat nous ravit également. Et c'est un projet qui jouera dans l'église Saint-Florentin.
Voilà.
Oui. Rise, ça veut dire s'élever. Hein, donc c'est vraiment le sujet de l'élévation. Ça a été pensé pour être comme ça dans des lieux sacrés et avec une dimension toute particulière et une bande son aussi composée par Pierce Fassini. Et voilà, ce sera normalement un rendez-vous attendu de la fin de saison.
Ce sera donc l'événement qui clôturera la saison.
Oui, ce sera le dernier spectacle de la saison, le dimanche 11 juin à 16h, avant que nous n'enchaînions plutôt sur la programmation estivale et en extérieur ensuite.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Karine Destin, de nous avoir parlé de la saison culturelle à Amboise qui commence donc à partir du 29 octobre. En tout cas, le premier spectacle aura lieu le dimanche 2 octobre. Il s'agira de Florilège Molière de la compagnie La Fabrique à Théâtre.
C'est du théâtre baroque et oui, n'hésitez pas. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Karine Destin.
Merci, au revoir.
Au revoir. On va faire une pause musicale et on se retrouve juste après.
ce n'est pas notre monde.
Il est 18h15 et nous sommes de retour dans Active Info et on parle à présent de mobilité, puisque du 16 au 22 septembre, c'est la Semaine européenne des mobilités. Cet événement a pour objectif d'inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens et en France également à opter pour des modes de déplacement plus durables. À cette occasion, la communauté de communes Touraine-Est-Vallée organise des baptêmes d'autostop jusqu'au 24 novembre. On en parle justement avec Amélie Hainaut, chargée de mission mobilité durable à la communauté de communes Touraine-Est-Vallée. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Alors expliquez-nous le principe de ces baptêmes autostop que vous proposez.
Alors l'idée c'est de faire découvrir aux habitants de Touraine-Est-Vallée le dispositif Réseau Pouce qui est mis en place depuis à peu près un an sur le territoire. On dispose donc de 180 arrêts qui sont justement placés pour faire de l'autostop. Ils permettent de déterminer à peu près une destination, en tout cas une orientation vers où on se dirige selon le sens de la route. Et moi, l'idée, c'est d'accompagner justement les personnes pour donner les bons conseils pour faire de l'autostop et se lancer pour la première fois.
Alors justement, quel type de conseils est-ce que vous donnez ?
Alors le premier, en effet, ce qu'on a fait développer de notre côté, c'est donc une pancarte type Velleda, donc réutilisable, qui permet de faire apparaître très lisiblement sa destination. C'est souvent le plus important dans le sens où l'automobiliste, il voit qu'il passe directement sur cet axe, il sera beaucoup plus enclin à s'arrêter. La prise de décision est très rapide, donc ça lui permet de se dire « je peux rendre service, je m'arrête tout de suite ».
Alors l'idée, c'est vraiment d'inciter les gens à se mettre à faire du stop.
Alors l'idée, en effet, c'est de permettre aux personnes qui peuvent manquer de mobilité ou aux personnes qui souhaiteraient changer de mode d'essayer à l'exercice de l'autostop. On a souvent pas mal d'a priori, on pense que ça peut être long, on se pose des questions au niveau de la sécurité. Là, on est sur de l'autostop local. Moi, je mets l'accent sur le côté entraide et convivialité. Et pour les personnes qui l'ont testé, on se rend bien compte que la moyenne est de 5 minutes à peu près et notre record était de 2 minutes 30. Mmh. Donc on a tellement de véhicules aujourd'hui qui circulent qu'il y a souvent et tout le temps même quelqu'un qui pourra nous rendre service et nous amener à destination.
Alors justement, ces lieux où se postent les autostoppeurs, ce sont des lieux estampillés Réseau Pouce.
C'est bien ça. Donc, ce sont des arrêts en fait qui sont matérialisés sur le territoire avec un panneau vert avec un petit pouce en l'air. Ces arrêts, donc, on peut les retrouver tous sur le site réseaupouce.fr afin d'identifier le plus proche de notre domicile. Et donc là, moi, je suis là pour accompagner selon les destinations, savoir comment bien se placer, quel arrêt choisir et également tout simplement se lancer pour la première fois parce que je sais que c'est un petit peu compliqué d'oser faire le premier pas.
Qu'est-ce qui freine justement les gens en principe ?
Alors en général, c'est le côté sécurité qui revient beaucoup. Mmh. On a eu malheureusement beaucoup d'échos qui n'étaient pas très très bons ces dernières années via les médias, mais on parle jamais des bons moments et justement des bonnes choses quand ça se passe bien. Donc là, l'idée en effet, comme je dis, ce sont des trajets courts sur des lieux qu'on connaît déjà. L'idée, c'est de rencontrer du monde. Ça permet aussi, en effet, de créer du lien pour les personnes qui peuvent se sentir aussi un peu isolées et clairement d'avoir ce côté entraide et rapidité finalement parce que ça peut compléter avec le covoiturage, mais lorsqu'on ne trouve pas le covoiturage qui pourrait nous convenir, ça permet en fait d'être mobile à un instant T et d'avoir quand même des moyens de se déplacer assez librement.
Puisqu'en plus le covoiturage, ça demande une application. Là, par exemple, si les gens n'ont pas d'application ou n'ont pas de téléphone ou un accès Internet, ils peuvent vraiment venir sur place.
Exactement. Ils ont juste à se rendre à un arrêt avec leur panneau tout simplement de destination, comme je disais, pour être bien visible. Les arrêts sont faits pour que les automobilistes puissent s'arrêter en sécurité juste après. Donc, on a essayé d'optimiser vraiment les lieux pour que l'autostop se passe au mieux.
Mmh. Alors, vous avez commencé l'opération la semaine dernière. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter s'il y a eu beaucoup de monde ? Est-ce que ça a marché ? Est-ce que les gens ont joué le jeu ?
Alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, du coup, d'échanger dans pas mal de médias, donc de faire parler de l'opération. Mmh. Mais malheureusement, les habitants, je pense, n'osent pas peut-être appeler ou m'envoyer un mail. Ce que je peux comprendre, c'est souvent plus dans la conversation que j'arrive justement à dire aux gens, n'hésitez pas à vous lancer, quel trajet vous faites quotidiennement sur lequel je pourrais vous aider. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, les baptêmes que j'ai effectués, c'était plutôt des personnes rencontrées sur des marchés ou des stands de mobilité que je tiens un petit peu partout sur le territoire. Mmh. Et là, j'ai un baptême d'autostop demain de Vouvray, justement, à Tours.
D'accord. Donc, ce ne sera pas le premier tout de même.
Non, ce ne sera pas le premier, mais c'est vrai que là, pour le moment, les occasions n'ont pas encore été très nombreuses. Mmh. Donc, je reste, moi, disponible de toute façon sur ces créneaux, bien entendu, jusqu'au 24 septembre, mais également, à savoir, le reste de l'année, je suis là pour conseiller, orienter les personnes, que ce soit sur l'aspect autostop ou covoiturage, sur Réseau Pouce, c'est aussi le vélo, donc il ne faut pas hésiter à revenir vers moi pour toute question concernant votre mobilité.
Mmh. Donc, il s'agit aussi, dans ce cas-là, de sensibiliser les automobilistes également, parce que pour qu'ils puissent s'arrêter, pour comprendre qu'ils peuvent partager aussi un véhicule. Enfin, il n'y a pas que les autostoppeurs, j'imagine, à sensibiliser.
Exactement, c'est vraiment ça. C'est lorsque les gens s'arrêtent, souvent en plus, voilà, ils ont cette envie d'aider tout simplement. Donc, ils sont souvent très contents qu'on leur parle du dispositif, qu'on leur explique. Comme il est assez récent, il y a toujours des personnes voilà, qui ne voient pas à quoi ça correspond. Donc, c'est aussi en effet tout ce travail pour moi justement d'amener cette information, d'inviter les gens à s'inscrire tout simplement sur le site ou sur l'application. Ça demande une pièce d'identité tout simplement pour s'inscrire sur Réseau Pouce. Et ensuite, on peut partager ses trajets quotidiens lorsqu'on a sa voiture et qu'on justement on roule, ce qui permet d'aider des personnes qui éventuellement chercheraient un trajet en tant que covoitureur. Et également, du coup, d'être, on va dire, plus à même de se dire, je regarde les panneaux, si quelqu'un a besoin. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. C'est petit à petit de construire cette entraide un peu collective dont on a de plus en plus besoin, je pense, et qui nous permettra de partager plus de trajets et de ne plus être forcément seul dans son véhicule.
Alors, par exemple, si on habite la commune de Montlouis-sur-Loire et qu'on veut se rendre à Tours, ce qui est le cas, à mon avis, de beaucoup de gens qui vont travailler en ville, par exemple, où se situe l'arrêt Réseau Pouce?
Alors, sur Montlouis-sur-Loire, on en a une cinquantaine.
Ah oui.
Donc, l'idée, en effet, sur le territoire, c'était de développer le maximum d'arrêts pour que chaque personne puisse en trouver un assez facilement dans son quartier. D'accord. Ou dans la zone où il réside. Le fait de les multiplier, c'était le fait de pouvoir donner plus d'opportunités en fait de passage et justement ne pas avoir à marcher à la sortie du village pour trouver éventuellement son arrêt.
D'accord, donc les gens peuvent, s'ils sont intéressés, demain se poster sur un arrêt Réseau Pouce et attendre qu'une voiture passe pour éventuellement aller travailler.
Totalement. Après, c'est vrai que l'idée que je conseille, c'est pourquoi pas de récupérer. Alors auprès de chaque mairie, elle est disponible, cette petite pancarte Véleda.
Oui.
Et également à la communauté de communes, bien entendu, qui est sur Montlouis également. On est toujours ouvert pour pouvoir donner cette pancarte ou éventuellement directement me contacter. L'idée, moi, ça va être justement de faire en sorte que cette première expérience soit bénéfique pour la personne, donc de préparer avec elle le lieu où elle doit se rendre et du coup savoir où il est plus judicieux de se placer. On peut tout trouver sur réseaupouce.fr, on peut récupérer cette pancarte Véleda auprès de la mairie. Et une fois que c'est fait, on peut se lancer complètement à faire de l'autostop et avoir du coup son premier trajet.
Ok, et donc si les gens sont intéressés pour participer à ces baptêmes avant de se lancer tout seul, ils peuvent vous contacter et c'est gratuit, je crois.
Totalement gratuit, en effet. Je suis là pour accompagner sur les mobilités durables. Donc quoi qu'il arrive, on peut rentrer en contact avec moi. Je pense que vous repartagerez sans doute, mais j'ai mon adresse mail professionnelle ainsi que mon numéro pro qui sont accessibles, même sur le site autrement tourenestevallée.fr, dans la rubrique mobilité. Faut juste, pas hésiter à me contacter. Et ensuite, moi, je rentre dans l'aspect, on va dire, plus précis par rapport aux besoins de la personne. Mmh. Ce qui manque souvent, c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas à s'identifier par rapport à son propre besoin. Et bien, moi, l'idée, c'est d'accompagner là-dedans pour que ça puisse répondre à nos emplois du temps, à tout ce qu'on a autour. Je me montre disponible pour permettre aux personnes d'essayer quelque chose de nouveau que parfois, on ne peut pas faire soi-même dans son quotidien.
Eh bien, merci beaucoup, Amélie Hénaud.
Merci beaucoup, merci à vous.
De nous avoir parlé donc des baptêmes d'autostop, et du Réseau Pouce. Merci beaucoup.
Merci.
On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Thank you. llorando, yo tengo pena contigo. Tú dices que estás penando, tú dices que no te quieres, que ya te estoy olvidando. A mi noviecita quiero, amigo, esto sí le zumba. A mi noviecita quiero, amigo, esto sí le zumba. El día que yo me muera, irá conmigo a la tumba. Contesta que sí, será de diente pa' afuera. Si te contesta que sí, será de diente pa' afuera. Pues todos quieren gozar del año la primavera. Yo nací allá en Siboney, en la provincia de Oriente. Yo nací allá en Siboney, en la provincia de Oriente, donde el sol es más caliente, sin coger por el caney.
Ataque contra él.
Y si llegas a la playa, quieres comer anones, y si llegas a la playa y quieres comer anones, sube la loma el palenque y lo tendrás a montones. Hasta pena me da, oh, ay, pena me da. Hasta pena me da, ay, pena me da. Hasta pena me da, ay, pena me da. Hasta pena me da, oh, pena me da. Hasta pena me da, pena me da. Hasta pena me da, pena.
Nous sommes de retour en compagnie de Christophe Lagors, co-gérant de l'auberge de la Treille à Saint-Martin-le-Beau, pour parler d'une soirée culturelle exceptionnelle qui aura lieu samedi 24 septembre. Bonjour Christophe.
Bonsoir Audrey, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Ça va bien, merci.
Alors vous organisez tout au long de l'année des soirées littéraires à l'auberge de la Treille à Saint-Martin-le-Beau, avec différents auteurs qui viennent présenter leurs derniers livres. Depuis le mois de septembre, vous avez accueilli par exemple Akli Tadjer, Marie-Christine Natta, et vous proposez samedi soir le 24 un dîner théâtre avec un spectacle qui s'appelle « Le vieux qui aimait les fautes d'orthographe » d'après un texte de Jean-Claude Bonneau et interprété par le comédien Philippe Ouzounian. Est-ce que vous pouvez nous dire...
Effectivement, Audrey, en fait, nous avons redémarré la saison culturelle le 2 septembre dernier et nous avions un invité de prédilection puisqu'il s'agissait de Gauthier Battistella pour un livre qui s'appelle « Chef ». Et donc, nous avons parlé des mets et des mots dans cette auberge, comme nous le faisons maintenant depuis presque 11 ans. Et donc, là, on s'est dit qu'il fallait continuer sur la lancée et revenir à ce que l'on faisait il y a déjà quelques années, c'est-à-dire mettre en avant des artistes locaux, que ce soit des musiciens, que ce soit des comédiens. Et là, il s'agit effectivement d'un texte de Jean-Claude Bonneau, « Le vieux qui aimait les fautes d'or » d'orthographe, qui a été ensuite mise en scène et interprétée par Philippe Ouzounian.
Alors, que raconte ce spectacle ?
En fait, c'est un hymne à la littérature, tout simplement, et c'est un hymne aussi à la langue française et aux mots. Tout simplement, en fait, c'est un voyage à travers la langue de Molière et à travers des expressions que nous connaissons pour les utiliser de façon régulière, quotidienne, dans le langage, je dirais, de la vie, de quelles que soient les générations, le langage d'hier, le langage d'aujourd'hui, peut-être aussi le langage de demain. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Par exemple ?
Eh bien, allez-y.
Ah oui, alors Audrey, est-ce que vous savez par exemple que le mot lama et le mot yeti sont issus de la langue tibétaine, tout comme le mot zèbre qui vient de zéba, qui signifie la bosse. Voilà, donc c'est grâce à Jean-Claude Bonneau que l'on découvre comme ça des petites pépites de notre langage, à la fois des clins d'œil sur des expressions, mais aussi sur des mots et sur notre relation à l'orthographe et à la langue française.
Alors, est-ce qu'on peut repréciser justement qui est l'auteur Jean-Claude Bonneau, puisque je crois que c'est quelqu'un qui a...
Alors, Jean-Claude Bonneau, c'est un grand monsieur du journalisme. Mmh. Il a débuté sa carrière à la Nouvelle République du Centre, comme on disait à l'époque. Il a ensuite poursuivi à l'Est républicain. Il a dirigé deux grands journaux régionaux du Sud-Ouest, la Charente Libre et Sud-Ouest. Et il a par ailleurs présidé l'Institut de journalisme de Bordeaux. Et aujourd'hui, il se consacre pleinement à l'écriture, puisqu'il a déjà publié 5 livres. Et nous l'avions accueilli pour son remarquable Le CEP, La Cape et l'Europe, sorti en 2019. Et nous avions fait une très belle soirée culturelle autour de ce livre qui se voulait un hymne au vin et au monde viticole. Et donc, à cette occasion-là, il m'a parlé de ce projet d'écriture, ce petit livre d'une centaine de pages, Le vieux qui aimait les fautes d'orthographe, que Philippe Ouzoulian a donc adapté et joue.
Mmh. Alors, est-ce qu'il reste encore des places pour cette soirée ?
Alors, très bonne question, Audrey. Vous avez l'art toujours d'appuyer là où ça fait mal. Il ne reste plus que quelques places, on va dire.
Donc, il faut se dépêcher si on est...
On peut encore réserver, appeler à l'auberge au 02 47 50 67 17. Et donc, la soirée sera en deux temps, puisqu'il y aura l'aspect mai, donc, qui suivra l'aspect mot. Donc, la partie mot avec le monologue de Philippe Ouzoulian, qui est un monologue très vivant et très, je dirais, savoureux, puisqu'on y célèbre aussi les vins de Loire dans ce texte. Et puis, deuxième partie, donc, les mets avec un repas. Donc, entrée, plat, dessert, pour la modeste somme de 33 euros, tout compris.
Eh bien, c'est noté. Et puis, une autre actualité aussi, vous organisez une soirée au Château d'Amboise, une soirée littéraire autour de la BD, autour de la BD 5 avril, dont le premier tome s'appelle L'héritier de Da Vinci.
Vous savez tout, Audrey, hein, vous êtes très bien informée.
La soirée s'appelle donc Le Château fait sa BD. Vous pouvez nous dire un mot justement sur cet événement ?
Oui, comme je vous ai dit, le fait d'avoir accueilli Gauthier Battistella le 2 septembre dernier nous a donné des ailes et on s'est dit que cette programmation culturelle automnale devait être à l'image de cette première soirée. Donc voilà, ce sont les éditions Dupuis qui éditent cette BD que vous avez citée, 5 avril, c'est un premier tome. Donc Michel Bussy en est l'auteur. Mm-hmm. Il y a à côté de lui deux autres, collègues, puisqu'on trouve Fred Monin et Noé Monin, mm-hmm, qui l'ont accompagné donc pour l'écriture et aussi pour les dessins. Et donc cette première BD, ce premier tome se déroule au cœur du Val-de-Loire et plus particulièrement au château du Clos-Lespé, mm-hmm, et au château d'Amboise. Mm-hmm. D'où l'idée donc d'accueillir ces trois BDiste, on va dire, dans ce magnifique écrin qu'est le château d'Amboise, le mercredi 19 octobre à 19h30.
Parfait.
Et c'est la première fois que nous faisons une soirée au articulée autour d'une bande dessinée.
Mmh. Et puis une autre date à venir aussi, c'est celle du jeudi 29 septembre. Là, donc, on revient sur les soirées littéraires classiques avec Dominique Saint-Pern qui viendra présenter Edmond de l'Envolé.
Ah oui, alors ça c'est une soirée à laquelle nous tenons beaucoup parce que il y a maintenant presque 3 ans est sorti le premier livre consacré à Edmond Charleroux, la grande dame de la littérature, présidente de l'Académie Goncourt, prix elle-même Goncourt pour Oubliez Palerme, mais surtout femme d'influence, femme de réseau qui a côtoyé les plus grands, et à travers le parcours donc de cette femme, c'est une traversée du XXe siècle que l'on fait à travers 2 tomes. Donc, comme je vous l'ai dit, en 2019 sortait le premier tome Edmond, qui a été véritablement encensé par la critique, très gros succès public. Et ensuite, il a fallu attendre un peu plus de 2 ans pour que Dominique de Saint-Pern publie la suite, c'est-à-dire la période qui va de l'après-Seconde Guerre mondiale, 1945-1946, jusqu'à la disparition d'Edmond Charleroux. Alors là, on balaye toutes les années, c'est-à-dire les années Chanel, les années de journalisme, son engagement en tant que féministe, mais aussi son amour pour la ville de Marseille, son mariage avec Gaston Defer, le maire de Marseille. C'est vraiment un parcours extraordinaire. Je dirais que Edmond Charleroux, c'est un peu une figure emblématique de la France du XXe siècle parce qu'on balaye presque un siècle, en fait, à travers le portrait de cette femme qui était exceptionnelle, une touche à tout remarquable. Et Dominique de Saint-Pern est une très grande journaliste qui a fait un travail remarquable qu'il faut saluer. Et nous sommes très heureux de l'accueillir parce que c'est vraiment un très, très grand livre, plutôt ce sont 2 très grands livres, puisque je vous l'ai dit, il y a 2 tomes, tout d'abord Edmond et ensuite L'Envolé.
Mmh. Eh bien, merci beaucoup Christophe.
Ah, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir Audrey d'être interviewée par vous et puis d'être écoutée bien sûr par les auditeurs de Radioactive, ça nous donne des ailes.
Eh bien, merci beaucoup Christophe, à très bientôt sur Radioactive.
Eh bien, j'espère, à très vite, et puis très bonne soirée à vous toutes.
Bonne soirée aussi, au revoir.
Au revoir.
Alors, on va continuer cette émission avec la chronique à ne pas manquer, avec Léo Morel, notre volontaire en service civique. Bonjour Léo.
Bonjour André.
Alors, tu vas nous parler toi aussi du château d'Amboise, mais plus particulièrement d'une série.
Eh bien oui, direction le château d'Amboise aujourd'hui, car je vais vous parler de la série américaine Serpent Queen, réalisée par Justin Hayes. Une série historique dont 2 scènes ont été tournées au château d'Amboise en juin et septembre 2021. La première dans la salle du conseil et la seconde au rez-de-chaussée du logis royal. Il faut savoir que cette série est l'adaptation du roman anglais Catherine de Médicis, Queen of France, écrit par Léonie Frieda, et que d'autres châteaux comme Chambord ou Chenonceau ont accueilli les équipes de tournage. La série se déroule au XVIe siècle et retrace la vie de la reine de France, Catherine de Médicis. L'actrice principale, Samantha Morton, joue le rôle de Catherine de Médicis. La série est diffusée depuis le 11 septembre sur la plateforme Stars Play. C'était une des séries les plus attendues de la rentrée. Elle sera diffusée dans le monde entier. Ce sera donc une formidable vitrine pour le Val-de-Loire et son patrimoine historique à ne pas manquer donc.
Eh bien, merci beaucoup Léo. C'était donc la chronique à ne pas manquer avec la série Serpent
Queen.
Super. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Cette émission se termine. Merci beaucoup à David Marion qui était à la technique. Merci également Léo pour la chronique à ne pas manquer. On se retrouve donc tous les lundis pour cette chronique à ne pas manquer. C'est la fin donc de cette émission. On se retrouve demain à la même heure. À demain.